Vous écoutez France Culture. Et prenez place autour de notre grande table d'été. Ce midi, variation autour de la peau. Avec à fleur de peau Régis Geoffrey et Anna Sigalevitch pour Loup-garou en salle ce mercredi. Puis de l'encre sous la peau, indélébile. Balade entre les murs du Quai Branly avec Anne et Julien de la revue moderne Art et Pop Culture. Hey, commissaire de l'exposition Tatoueur Tatoué. Et explication d'une tendance avec Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui consacre un dossier au tatouage dans son numéro estival. Au fil de cette émission, retrouvez également les habitués de cette grande table d'été. Autour de 13h15, à première vue, Aude Lavigne questionne ce midi Catherine Tsekenis, directrice de la fondation Hermès. Un peu avant la demi, Cheval Blanc, live inédit, De l'amour, extrait de l'album Rouge, est programmé par Mathieu Conquet. Enfin, avant de se quitter, rendez-vous Gare de l'Est en une du journal d'Avignon de Joël Gaillot. Il fait presque beau, le ciel ne sait pas où il va, mais nous, oui, on est ensemble jusqu'à 14h. Lui est une voix off, celle de l'homme qui se raconte et dit « Je suis tombé sur une poule aux œufs d'or, elles sont vieilles, les poules aux œufs d'or. » Il habite dans une maison inhabitée, sans vie, sans âme. Il l'embauche pour s'occuper de son enfant qui doit arriver mais n'arrive jamais. Pour tromper l'ennui et prouver sa perversité, peut-être, il l'attire dans ses filets. Elle se laisse capturer, avide de plaire, d'exister dans le regard de l'autre. Sur le fond, c'est un huis clos où le mal se distille lentement, comme un poison. Et sur la forme, c'est un film de Stéphane Lévy qui signe là son premier long métrage avec un parti pris très esthétique qui passe de la couleur au noir et blanc, ne redoute pas les plans serrés, même très serrés, presque lacérés. À l'écran, ils sont deux, ils jouent juste, crédibles, chacun dans son rôle. L'actrice Anna Sigalevitch et elle, et l'écrivain Régis Geoffrey et lui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et extrait.
Vous avez déjà la vie des hommes ?
Des hommes, non. Des enfants, oui.
Vous avez un signe astrologique ?
Oui.
Mais quoi ?
Scorpion.
C'est pas un bon signe, ça.
Ah bon ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est un signe très fourbe.
Pas du tout, hein.
Mais avec une connotation sexuelle excessive. C'est le signe des gens pervers.
Ah bon ?
François Mitterrand était scorpion.
Picasso aussi.
Bah justement. C'est un signe de complication à tous les niveaux.
Et vous, vous êtes quoi ?
Moi, je suis gémeaux.
Ah, ça va pas du tout avec les scorpions.
Non, c'est l'envers, parce que c'est l'honnêteté.
Bah non, c'est les gémeaux qui sont doubles.
Ils sont doubles dans l'honnêteté.
Ah bon ?
Exactement. Dans la beauté, dans la grâce, dans les airs.
On laisse reposer un peu.
Régis Geoffrey, les loups-garous, ça ne rit pas, ça louve, comment dit-on ?
Ah, les loups-garous...
Faites-nous le cri du loup-garou.
Les loups-garous, non, je ne vais pas faire le cri, mais le propre du loup-garou, c'est surtout qu'on le voit que quand il est garou ou quand il n'est pas loup. Parce que quand il est loup, on ne le voit plus. Donc là, c'est un ogre. C'est, en réalité, oui, c'est le personnage qui vient du fond des âges de l'ogre.
Et nous sommes dans cet extrait qu'à 6 minutes du début du film. Quelle saleté ce bonhomme, Régis Geoffrey, acteur pour la première fois. Pourquoi vous avez choisi d'incarner, vous, ce mâle dominant, narcissique et pervers ?
C'est-à-dire que les personnages sont intéressants quand ce sont des ordures déjà. Et parce que, en même temps, à mon avis, ça c'est un parti pris, peut-être parce que c'est un manque de confiance en moi, mais je pense que dans la littérature ou dans le cinéma, personnellement, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis très tragédie ou farce. C'est un peu les origines de la, j'allais dire, de l'histoire. À partir du moment où on raconte une histoire, c'est qu'il y a un événement. Et avec les gens qui sont des ordures, il se passe toujours quelque chose.
Une farce, une tragédie qui se joue à vos dépens. Anna Sigalevitch, le personnage que vous incarnez est une victime, et une vraie victime. Une victime malgré elle, et en même temps une victime consentante. Hein.
Oui, moi il me semble que c'est quand même une victime consentante, parce que quand elle arrive donc dans cette maison, engagée comme babysitter, l'enfant n'est pas là. Et très vite, donc vous parliez de la scène qu'on vient d'entendre, elle donne le bain à cet homme, ce qui est quand même très 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 curieux, quoi, quand on vient d'arriver pour garder un enfant, de donner le bain à l'enfant.
Et au père.
C'est au père. Et c'est aussi un personnage qui a quelque chose de monstrueux, et en tout cas une faille très 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 grande, et un besoin de combler ou de se réparer, ou en tout cas de se jeter dans la gueule du loup. Enfin. Pour moi, c'est pas totalement une victime. Elle sait très bien où elle va, et elle reconnaît en cet homme, malgré toute sa perversité, mais en tout cas, elle reconnaît quelque chose qu'elle cherche, et il se passe quelque chose entre eux qui la répare, mais en tout cas qui lui permet d'aller au bout d'elle-même. Voilà, jusque très loin.
J'en reviens à votre choix, Régis Geoffrey, de jouer dans ce film. C'est vrai que souvent, quand des écrivains écrivent notamment un scénario, ils ont plutôt envie de passer derrière la caméra, c'est-à-dire de réaliser le film. Ça, vous avez choisi d'un commun accord de confier ce rôle-là à Stéphane Lévy, à un réalisateur. Mais vous aviez cette envie, visiblement, de passer vous devant la caméra, de jouer ce rôle-là.
C'est-à-dire qu'en réalité, tout est parti du fait que Stéphane Lévy a fini par me convaincre que je pouvais jouer. Alors, ce que je voulais pas, c'est être un auteur qui joue au sens où on passe tout. C'est-à-dire qu'on dit, c'est un auteur, il joue lui-même, etc. Donc, on a fait.
Il joue ses dialogues, il joue son scénario.
Voilà, ouais. Et puis il joue faux, mais c'est pas grave puisque c'est lui. Et ça, donc il est arrivé finalement à me convaincre que je pouvais le faire. Et si vous voulez, jouer, être acteur de cinéma, c'est le rêve de ma vie. Un peu comme tous les écrivains, comme tous les cinéastes qui font ça par dépit, parce qu'ils auraient voulu être acteurs. Je pense que tout le monde veut être acteur. Je pense que par exemple, un garçon comme François Hollande est un acteur raté, que Sarkozy, ça se voit beaucoup, est un acteur raté. Je pense que tout le monde veut en réalité être dans la vérité, c'est-à-dire la vérité de l'acteur. C'est-à-dire qu'on ne roule pas les gens, on dit qu'on est acteur. Moi, personnellement, en tout cas, mon histoire, c'est que c'est ce dont j'ai toujours rêvé enfant. Mais simplement, après, dans votre vie, il y a des choses qu'on veut faire enfant, puis qu'on oublie. Et là, moi, ce qui a été merveilleux, c'est de pouvoir réaliser ce rêve d'enfant.
Mais alors, les bons présidents ne font pas forcément des bons acteurs. Les bons écrivains ne font pas forcément non plus des bons ou des mauvais acteurs. Vous vous êtes senti, vous, comment dans ce rôle-là?
J'ai pas à me juger, mais si vous voulez, moi, personnellement, c'est les moments les plus beaux de ma vie, pour moi, les plus intenses. Ça a été ces 17 jours pendant lesquels j'ai tourné de loin.
17 jours, c'est très très court pour un tournage.
Oui,
hein.
Ça a été court, mais je puis vous dire qu'on a beaucoup travaillé avec Anna. Alors, Stéphane Lévy et Botti, Philippe Botuguilion qui fait les éclairages, on travaillait plus que nous. Nous, on était plutôt dans la cuisine en train de boire des cafés en principe et de rigoler. Mais c'est vrai qu'on tournait 15-17 heures par jour. Hein.
Et un très beau travail aussi sur le son, à signaler tout de suite, avec peu de musique, mais beaucoup d'ambiance. Évidemment, ces cigales, ces bruits de bain, ces bruits de bouche, ces bruits de peau qu'on entend énormément. Et puis, en termes musicaux, Vivendi, qui a été, je ne sais pas d'ailleurs aux yeux de qui ou à l'oreille de qui, visiblement l'homme ou le compositeur de la situation.
Ah ben c'est aux oreilles de Stéphane Lévy. Il faut bien. Moi, j'avais dit de toute façon, je crois à la démocratie dans la politique, mais en art, il n'y a pas de démocratie. Donc, que ce soit clair, c'est Stéphane Lévy qui dirigeait, qui a tout dirigé. C'est les choix de Stéphane Lévy. On n'a vu aucun rush. C'est lui qui a tout fait. Donc, évidemment, c'est lui qui a choisi Vivaldi. On n'a pas élu Vivaldi. Nous, c'est vraiment un film de Stéphane Lévy. Et moi, je trouve ça assez reposant.
Je crois que j'ai dit Vivendi.
Vivendi. Ah
moi,
bah
j'ai
oui.
dit Vivendi.
Ah, vous avez dit Vivendi.
Je suis pollué. Hein.
Bah, non, là,
oui, c'est parce qu'il y a des travaux à l'extérieur. J'étais partie dans le monde entrepreneurial. Vivaldi, pardon pour lui, Régis Geoffrey, Loup-Garou. C'est pas une adaptation, hein, c'est un scénario, un huis clos que vous avez donc pensé et écrit cette fois directement pour le cinéma. Anna Sigalevitch, on a pu vous voir hein, récemment dans Belle Épine de Rebecca Zlotowski, dans Copacabana de Marc Fitoussi, la pianiste de Michael Haneke, mais pas seulement, vous étiez aussi au générique de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, du pianiste de Roman Polanski, de The Barber, des frères Cohen, de L'Aviator, de Scorsese, c'est pas mal, non tout ça.
Marie-Antoinette, The Barber, tout ça, c'est les voix. Hein.
C'était des doublages. Je sais bien, mais moi, je trouve que c'est prestigieux. Pourquoi, après tout, doublage, ce serait pas un vrai boulot?
Oui, moi, j'ai pas l'ambition d'être doubleuse professionnelle. Je préfère incarner moi-même, même si c'est très intéressant de doubler des personnages comme, enfin, des actrices comme Scarlett Johansson ou Alicia Vikander que je double là ces temps-ci. C'est pas, absolument pas mon ambition. Je fais ça parce que ça me plaît aussi, mais pas du tout essentiellement. Oui, j'ai travaillé avec des metteurs en scène en effet très différents. Le premier film dans lequel j'ai joué, j'étais adolescente, j'avais 16 ans, c'était La Pianiste. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais c'était évidemment incroyable. Là, ce qui était intéressant sur ce film avec Régis, c'est qu'on a travaillé de façon pas du tout académique. Vous parliez de scénario. Le scénario n'était pas réel. Moi, je n'ai jamais eu un scénario entre les mains avant qu'on commence le tournage. Il y avait des bribes, il y avait des scènes qui arrivaient. Je me souviens, j'étais à Avignon pour le festival de théâtre et je recevais des scènes entières avec des monologues gigantesques que Régis pondait dans la nuit, comme ça. Et le film s'est quand même beaucoup écrit et au tournage et après au montage. On a tourné que 17 jours, oui, mais on a tellement tourné qu'il y aurait eu plein de films possibles à monter. Voilà, ça a été une expérience très, 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 très dense en termes de travail. Et puis surtout, on a tourné des choses très éloignées du scénario qui se sont improvisées. Finalement indirect dans notre rapport aussi avec Régis aussi. Moi, je disais quand même beaucoup le texte que Régis m'avait écrit, mais lui improvisait énormément. Et c'est ce qui était... Enfin, pour moi, vraiment fascinant et très inspirant, c'est que de travailler avec un écrivain de l'envergure de Régis, il y a une sorte de fiction qui jaillit de lui en direct. Et ça, c'est déroutant parce que vraiment, quand on commence une scène, on ne sait pas du tout vers où on va aller et comment ça va se terminer. Donc il y a du danger et en même temps, il y a de l'excitation. Et on a réussi à, je crois, créer un rapport, en tout cas, à la fois de grande confiance et en même temps de grand abandon.
Alors elle, votre personnage, en tout cas, se raconte en direct, face caméra, alors que lui se raconte par le biais d'une voix off, Régis Geoffrey. Ça a été rajouté du coup après, dans ce jeu de avant, pendant, après, de construction de ce film et de ce scénario?
Pas du tout, non. La voix off était d'ailleurs pas off, je crois. C'est Stéphane qui l'a déshabillé et qui l'a mise off. La narration, j'allais dire, est de Stéphane Lévy. Hein. C'est pas un concept de film démocratique, voilà. Donc il y a vraiment un auteur.
Donc le dictateur, c'est lui.
Oui, mais moi je.
L'autocrate.
Vous savez, en fait, on est dictateur quand on donne son pouvoir à quelqu'un. J'ai toujours trouvé ça très confortable. C'est-à-dire qu'en même temps, on obéit, mais on obéit parce qu'on a décidé de le faire. Et je pense que nous, on avait... Moi, je me suis senti une grande liberté parce que, justement, vous savez, à un moment, il y a un côté infantilisation sur un tournage. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout pour vous et il reste qu'une petite partie dans laquelle vous êtes libre, un peu comme un gamin. C'est un peu un côté colonie de vacances aussi, voilà.
Des peaux que l'on masque, que l'on mouille, que l'on rase, que l'on crème, des peaux qu'on lave, qu'on argile, qu'on aftershave. À première vue, tout se joue en surface, hein, à fleur de peau en apparence. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'enveloppe compte beaucoup et l'enveloppe de nos âmes perdues ou mal intentionnées, on le sait, c'est la peau. C'est pour ça que vous avez choisi d'en faire un héros, la peau, une héroïne. Quelle porte d'entrée est-ce qu'elle offrait à l'histoire, selon vous ?
C'est-à-dire que surtout au départ, c'est quand même deux personnes qui n'ont pas le même âge. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est dans la cinquantaine et il y a une fille qui est dans la vingtaine. Donc la peau est un gros problème. Parce que finalement, on pourrait presque se jouer la comédie qu'on a des âmes d'enfants et que donc les enfants ont le même âge. La peau, c'est l'obstacle. La peau, c'est l'humiliation. C'est quelque chose contre laquelle on ne peut rien. Donc c'est l'obstacle. Là, dans ce film, c'est l'obstacle, c'est la peau de l'homme et la peau de la femme, mais la peau de la jeune fille, de cette jeune fille qui pourrait être sa fille, et sa peau à lui. Je pense que c'est le grand obstacle qu'il y a entre eux. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette profondeur, si j'ose dire, de la peau. Il y a un deuxième héros dans le film qu'on ne voit pas, parce qu'il y a les cigales, mais le héros extraordinaire du film, c'est le moustique. C'est-à-dire qu'on a été dévoré par les moustiques. Donc la peau, on la sentait, la peau. Et quand je mets de la crème sur le dos d'Anna, c'est qu'elle est complètement suppliciée par les moustiques aussi. Donc la peau, oui. Et la peau, c'est l'obstacle entre les deux, finalement. En amour, il y a un obstacle souvent qui se situe. Et quand il y a une variation d'âge, c'est vraiment la peau.
Ce midi, c'est une Anna sans piqûre de moustique qui nous apparaît. Et vous, Régis Geoffrey, un homme qui n'est pas rasé de près, comme dans le film, avec ses rides apparentes, mais des jolies rides, c'est-à-dire ces rides qui entourent la bouche et qui sont les rides du sourire, et puis celles du front, qui sont peut-être parfois les rides du doute. Et celle-là, celle qui est entre les sourcils, elle correspond à quoi ? C'est celle-là que vous gommeriez ?
Non, moi je gommerais rien.
C'est la ride du.
Vous savez, vous êtes
de l'angoisse.
Non, mais je trouve qu'on est trop concerné par sa dépouille. Vous savez, les femmes et puis maintenant les hommes sont très fiers de leur dépouille. On dirait qu'ils en sont solidaires. Vous savez, par exemple, même sur le plan sexuel, les gens ils font des performances ou ils n'en font pas avec le temps, comme s'ils étaient solidaires de leur dépouille. Moi, je suis pas du tout solidaire de rien et certainement pas de mon corps. Et est-ce que je suis solidaire du reste ? J'en sais rien, mais enfin sûrement pas de mon corps.
Alors, chez vous, Régis Geoffrey, on l'entendait, la peau a sa place au cinéma et la vieillesse ne rime surtout pas avec sagesse.
Vous savez que j'ai envie de vous dire je t'aime. Mais je peux pas. On se vous voit. Il faut appliquer la jeunesse en couche épaisse.
Vous en voulez sur le cou ?
Oui, surtout sur le cou. C'est là où ça fripe. C'est comme chez les dindons. Avec l'âge, j'en deviens une basse-cour.
Tourne la tête ?
Ça accroche toute la vieillesse.
Il faut appliquer la jeunesse en couches épaisses. Quel portrait cruel vous faites de la vieillesse. Et je passe la scène où vous parlez de la vieille dame que cet homme a su attirer à lui. Une vieille dame qui était en recherche d'amour, lui avait une vingtaine d'années, elle 80. Non, je vais peut-être le lire quand même tout à l'heure. Dites-moi, pourquoi ce portrait de la vieillesse ? Pourquoi est-elle si malmenée, cette vieillesse qui est censée nous apporter tant, et notamment la sagesse, a priori ?
Parce que la vieillesse est dégoûtante, parce qu'elle plaît à personne, parce que c'est répugnant, la vieillesse, parce que c'est abject, parce qu'on n'en veut pas pour soi-même. Et les gens qui vous disent le contraire, qui ont des paroles sympathiques par rapport à la jeunesse, c'est jamais, par rapport à la vieillesse, c'est jamais pour eux. C'est-à-dire, vous voyez bien, on est une société où personne ne veut être vieux. Ou alors les gens vous disent, j'ai gardé, comme je mentionnais tout à l'heure, mon âme d'adolescent. Tout le monde veut avoir 18 ans. C'est-à-dire, même 17, c'est-à-dire, ça diminue. À partir du moment, plus les adolescents ont une liberté, plus les gens veulent reculer en âge. Et on veut tous être jeunes. Non, être vieux, c'est une catastrophe. D'abord, la vieillesse, c'est la mort. Je veux dire, vous avez autant de chances de mourir quand vous êtes vieux que si vous êtes soldat. C'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, on supporte la vieillesse, et je peux en parler parce que je vais être bientôt vieux, j'aurai 60 ans dans un an, donc j'ai une certaine liberté là-dessus. Je veux dire, on supporte la vieillesse parce qu'on ne peut pas faire autrement. En plus, les vieux sont dégueulasses, puisque c'est eux qui ont le pouvoir et l'argent. Alors, on passe la main dans le dos de la jeunesse, mais pour mieux l'enfoirer, quoi. Non, non, la jeunesse, la vieillesse est détestable, personne n'en veut, et surtout pas les gens qui sont en train de vieillir.
Et Anna Sigalevitch, votre héroïne, c'est aussi ce qu'elle incarne, cette jeunesse effrontée. Elle est comme un miroir pour lui. C'est pour ça qu'il a envie, à ce point-là, de la massacrer, de la vampiriser, de la loup-garouter.
Oui, sûrement, mais c'est aussi qu'il sent en elle une faille dans laquelle il va totalement s'engouffrer. Il y a une scène où il lui dit « Mais moi, je vais vous faire un enfant. Moi, je vais, vous allez être mère. » Finalement, une femme, elle existe que quand elle est mère. Il n'y a que ça qui compte. L'amour, c'est quand un homme dit à une femme qu'il va lui faire un enfant, et enfin, qu'il le fait, surtout. Et donc, il la manipule en... Parce que elle a fait quelque chose d'impardonnable pour elle. Voilà. Donc elle a grandi avec,
quand elle était très petite.
Quand elle était très 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 petite. Et donc elle a grandi avec des parents qui ne lui ont jamais réellement pardonné. Et elle trouve en cet homme quelqu'un à qui elle peut dire la vérité, enfin croit-elle, et qui va à la fois la prendre comme enfant. À un moment donné, on se disait dans le texte « Je suis l'enfant qu'il n'a jamais eu ». Bon, finalement, c'est pas resté au montage. Mais il y a de ça. Elle est l'enfant qu'il n'a jamais eu. Et elle le voit à la fois comme une forme de père, mais en tout cas comme une figure paternelle qui pourrait lui pardonner.
Voilà. Elle cherche sa reconnaissance. Hein.
Oui, elle cherche sa reconnaissance.
Mais sur cette idée d'être vampirisée par lui, j'aime beaucoup cette phrase dans le film. « Maintenant, je vais fermer les yeux, vous allez me regarder, ça régénère le regard des autres. » Elle cherche effectivement cette reconnaissance. Hein. Mais qu'est-ce que lui cherche en elle, Régis Geoffrey ?
Je pense qu'il cherche dès le départ, c'est une sorte de persécution. Je pense qu'il veut la persécuter. Il y a une grande dominante dans ce film de l'ennui. Je pense qu'il y a une sorte de... C'est l'ennui des riches pour lui. C'est-à-dire qu'il est désœuvré, il est sans passion. Et je crois que c'est un amusement. Vous savez, du pain et des jeux, quoi. Les Romains avaient dit la chose exacte, c'est-à-dire que c'est la victime qui arrive. C'est la tigresse qu'on va supplicier. Je crois que c'est surtout ça. C'est le désœuvrement. Je pense que dans le désœuvrement peut naître des choses extrêmement fortes et extrêmement intéressantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Je vais vous laisser lire quand même cet extrait. Vous le ferez bien mieux que moi. Là où il y a la flèche. Ce moment où il parle de cette femme donc, pour laquelle il a fait gigolo dans sa jeunesse.
C'est beau, une histoire d'amour qui va se terminer. Une histoire d'amour qui débouche sur le paradis. Elle était tellement vieille, elle était tellement riche. Je l'ai épousée. C'est bizarre. Vous savez, je couchais avec elle. À l'époque, c'était difficile. Il n'y avait pas de médicaments. J'y arrivais. Sans problème, j'y arrivais. Elle m'excitait. Elle me surexcitait. On aurait dit que je couchais avec une banque. Je la faisais hurler. Ce qu'elles peuvent aimer l'amour, les vieilles, c'est terrible. Ça les étourdit, elles oublient. Je voyais sa peau, quelque chose de blême sous le maquillage. La vie rapide, les quelques derniers mètres. C'est à ce moment-là que j'étais arrivé. Finir la course et puis emporter le trophée.
On n'aurait pas pu, avec nos voix innocentes, Anna Sigalevitch, lire ce texte de la même manière. Loup-garou est à sa manière le prolongement aussi de vos deux derniers romans, Régis Geoffrey de Klaus Trier, où vous vous inspirez de l'affaire Joseph Fritzl, qui a retenu sa fille pendant 24 ans dans la cave de la maison conjugale, mais aussi de la ballade de Rikers Island, hein, inspiration libre de l'affaire DSK, où vous vous attachez à comprendre moins l'homme qui trompe que la femme trompée. Comment faire face à l'humiliation? Pourquoi assumer publiquement ce rôle de femme sacrificielle? Et surtout, comment s'émanciper des rapports de domination. On retrouve cette idée, cette thématique dans le film, dans le loup-garou, sauf que cette fois, pas sûr qu'elle lui survive, pas sûr qu'elle parvienne à s'émanciper. Je ne donne pas la fin, hein, vous remarquerez. Vous étiez pour. Vous avez dit, on peut y aller.
Pense qu'on peut donner la fin. Oui, vous savez, à la fin, il l'exécute.
Oui, on ne voit pas.
À la fin, elle meurt. Et à la fin, les enfants arrivent. Voilà, on va même tout dire. C'est pas le bébé qui arrive, c'est les enfants. C'est les enfants qu'il a et qui ont un certain âge, comme lui. Enfin, ils sont plus jeunes, mais ce sont des enfants qui ont grandi. Je pense qu'il y a ce côté, consentement. Moi, j'ai écrit la plupart de mes livres, finalement, c'est sur le consentement et le non-consentement. Et je pense que dans la vie, la difficulté, c'est de nous arracher le consentement. C'est-à-dire que, vous voyez, la vie d'adulte qu'on mène, est-ce qu'il n'a pas fallu nous arracher le consentement pour arriver à nous mettre dans ce rôle-là, dans ce métier, pour arriver à nous faire ces compromission. À un moment, le consentement, on nous l'arrache, finalement. On s'en rend pas compte. Et là, finalement, Anna, dans le film, il arrive à lui arracher ce consentement. Elle est consentante, elle y va. Mais on lui arrache. Et je pense que la société ne cesse de nous arracher notre consentement. Là, vous parlez avec Joseph Frizel, j'ai un peu de mal, parce que c'est tellement un exemple extrême que je ne peux le comparer à personne. Donc, je le laisse à part. Et le pauvre DSK aussi, parce que là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Non, on est vraiment dans le contexte du film, qui est un contexte unique, comme dans chaque histoire. Et je pense que toute son histoire, c'est d'essayer d'arriver à ce que Anna entre dans cette nasse, entre dans ce piège-là, entre chez cet homme qui, elle aurait dû partir. Oui,
c'est un portrait de femme forte ou uniquement un portrait de femme fragile et dominée? Est-ce qu'à travers ce consentement qu'elle délivre inconsciemment, elle fait ses choix aussi pour vous?
Je pense qu'il la tient, vous savez, c'est un peu comme dans la vie, je parlais de la vie. Il la tient par l'argent, tout simplement, parce qu'il lui donne beaucoup d'argent. Et comment faire quand on n'a pas d'argent et qu'on vous en propose beaucoup? Est-ce qu'on ne va pas prendre des risques? Bien sûr. Vous savez, la vie des gens sans argent est beaucoup plus dangereuse que la vie de ceux qui en ont, qui ont toujours le choix. Quand on n'a pas d'argent, le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et je pense qu'elle, elle n'a pas le choix parce que les sommes d'argent qu'il lui donne et qui sont astronomiques par rapport au travail qu'elle fait, elle n'a pas le choix de les refuser. Et donc, à partir de là, toute une mécanique se met en branle. Et je vous dis, c'est la mécanique du consentement. C'est le consentement, non-consentement à la fois, et qui va vers quelque chose qui n'était pas prévu et qui est l'assassinat. Et qui est quelque chose qui est dès le début dans le film, parce que lui, il le porte en lui, l'assassinat. C'est une espèce de sentiment de domination, de paranoïa et de destruction de tout autour de lui. Et donc de cette personne qui est un peu comme un chat, il le prend comme un chat la souris, mais simplement il y a une sorte de fascination, et la fascination de l'homme, qu'est-ce que c'est par rapport au chat, ou par rapport au tigre, ou par rapport au serpent? C'est le langage. Et c'est son langage qui comme un filet, l'emporte et l'amène vers ce qui n'est plus le langage, ce qui s'incarne, et ce qui est la strangulation, et ce qui est la mort.
Et quid de la lutte des classes alors?
Je pense que la lutte des classes, à partir du moment où on n'a plus parlé, on a cru qu'elle n'existait plus, mais elle est là tout le temps. Il y a toujours des rapports de hiérarchie. Et là, on est, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a plus de lutte. Il y a les classes, mais il n'y a plus de lutte. D'ailleurs, dès qu'il y a des gens qui sont dans cette optique-là, on les dénigre, par exemple, on les calomnie, par exemple, les cheminots, on les a complètement calomniés, on a dit finalement que c'était des nababs. On disait un peu la même chose sur le bagne de Cayenne, à un moment, que c'était des nababs, que c'était la grande vie, et sur les intermittents du spectacle aussi. Dès qu'il y a des gens qui sont en lutte, on dit, mais finalement, ce sont des lentilles. C'est quand même extrêmement curieux pour des gens qui sont dans le salariat et dans la précarité, plus ils sont dans le précaire, plus on dit qu'ils sont nantis. Et il faut voir les gens qui disent qu'ils sont nantis aussi. C'est quand même le MEDEF qui parle aux intermittents. Et c'est les intermittents qui sont nantis. Voilà, donc la lutte des classes, je ne suis pas intermittent, hein, donc c'est pas du tout par intérêt personnel, mais c'est ce que je pense, et je vois qu'à chaque fois qu'il y a une lutte, les gens les calomnient tout de suite. C'est-à-dire que la lutte des classes n'est plus du tout à la mode, mais je pense que les choses maintenant, le camp est dans la balle des nantis. Et quiconque s'oppose aux nantis est un aigri, un profiteur, ce qui est le comble. Voilà. On est arrivé à la lutte des classes à l'envers et c'est le comble de du triomphe de la classe possédante.
Et voilà, Anna Sigalevitch, votre héroïne, est doublement perdante sur toute la ligne. Perdante en tant que femme et perdante en tant que représentante de la classe ouvrière dans ce double rapport de domination qui est donc au cœur de Loup-garou en salle aujourd'hui. Sur France Culture, tout de suite un acteur majeur de l'art contemporain, une œuvre, une vocation, à première vue, aujourd'hui avec Catherine Tsekenis. Elle est au micro de Haut-de-la-Vigne. Catherine Tsekenis est la directrice de la Fondation Hermès, fondation créée en 2008. Elle débute sa carrière dans le monde de la danse contemporaine et elle mène les actions de la Fondation dans un champ de curiosité large et exigeant. Elle répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain à première vue? Catherine Tsekenis, vous nous répondez.
Ce qui est posé dans ma mémoire, c'est une visite au musée d'Antibes, le musée Pablo Picasso. Je pense que j'avais 12-13 ans et ça a été la première fois que j'étais vraiment face en immersion avec un art qui était non traditionnel pour moi, non figuratif. Et j'ai été totalement fascinée d'abord par la profusion, peut-être par le geste vraiment très juste, très rapide de Picasso, parce qu'il y avait des œuvres où il y avait très peu de traits finalement, mais qui étaient extrêmement expressives. Et je pense que c'est le moment où j'ai vraiment découvert la force d'un art qui pouvait être non figuratif, ne représentant pas la réalité dans une quête de beauté, mais bien au-delà. Et peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point on pouvait y chercher aussi du sens, du sensible, et aussi peut-être la question de l'énigme qui me plaisait beaucoup, en fait. C'est-à-dire d'être vraiment emmenée dans quelque chose qui était un peu, je pense, un peu sans fond. Voilà.
Catherine Tsekenis, vous évoquez le geste, Oui. Le sensible. Vous parlez de peinture comme on parlerait de danse, car la danse, c'est aussi important pour vous.
Oui, parce que à 12-13 ans, j'avais déjà une pratique artistique. Mon premier métier a été celui de danseuse, et donc c'était déjà un âge où je devais danser 2 ou 4 heures par jour. Et je pense que quelques années après, je pense assez rapidement, j'ai eu un choc aussi esthétique qui a déterminé vraiment beaucoup ma vie. C'est le moment où Caroline Carlson a été invitée par Rolf Liebermann à l'Opéra et ils avaient créé le GRTOP. Et j'y suis allée seule parce que je faisais de la danse classique. Mais je me suis dit, il se passe quelque chose là. Et là, ça a été extraordinaire. Je crois que j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit, mais c'est vraiment ça qu'il faut que je danse. Et là aussi, j'ai découvert un art qui, évidemment, était beaucoup plus abstrait, mais surtout une façon de considérer le corps qui, pour moi, était tellement plus juste, tellement plus contemporaine. C'est-à-dire pas du tout d'essayer de faire des figures, la prouesse et de raconter des histoires de princes et de princesses. Et je me suis dit, mais c'est ça, aujourd'hui, il faut danser ça. Voilà, ça a été, et en fait, c'est des chocs que j'ai eus grâce à ce qu'on peut appeler des grands artistes, des grands maîtres. Ça a déterminé beaucoup de choses.
À première vue d'Haut-de-la-Vigne, toutes les infos à retrouver sur le site de France Culture. Et vous, Anna Sigalevitch, un film, une mise en scène peut-être, que c'est au théâtre que votre vocation a débuté, qui a suscité ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites?
Non, je crois que c'est plutôt en allant voir les démonstrations de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Très petite, je devais avoir la première fois que j'y suis allée des dizaines de fois, hein, mais la première fois peut-être à 6 ans. Et de voir des jeunes enfants, parce que c'est à partir de 8-9 ans qu'on peut rentrer à l'Opéra de Paris, sur scène comme ça, à l'Opéra, dans une forme de rigueur, de dépassement. Et je sentais une joie d'être en scène de leur part qui vraiment me donnait envie de faire comme eux. Je pense que c'est le premier élément déclencheur en moi. Après, mon père est pianiste, donc j'ai grandi avec... Moi, j'ai fait beaucoup de piano et de danse, en fait, au départ. Et j'ai grandi avec un père qui jouait en concert, que j'allais écouter... Et j'avais une sorte de d'attrait irrésistible vers la scène.
Régis Geoffrey.
Moi, ce qui a déclenché, alors moi c'est très simple, ce qui a déclenché pour moi le désir d'écrire, c'est un livre de Françoise Sagan qui s'appelait Un certain sourire. Et je suis désolé, ça va être un peu peut-être désagréable pour Françoise Sagan, mais ça l'est pas dans mon esprit. C'est que moi je lisais Dostoïevski, etc. Et quand vous lisez, quand vous avez lu L'Idiot, ça vous dites pas je vais me mettre à écrire. Mais comme Un certain sourire, finalement, c'était à peu près 30 pages qui avaient été tirées par l'éditeur avec beaucoup de blanc en première partie, deuxième partie, quatrième partie. Je m'étais dit, je peux y arriver. Et donc, c'est ça qui a déclenché pour moi la chose de me dire, je peux arriver à écrire.
Et vous y êtes arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé? Ça, c'est encore une autre question, j'imagine.
Je suis arrivé à écrire, et c'est ça, c'est un peu la magie, parce que je faisais de la photo, et à l'époque, vous savez, il y a les bains de révélateurs, de fixateurs, et quand vous voyez la photo apparaître dans le révélateur, il y a côté de magie, quand je me suis aperçu qu'avec une phrase, je pouvais arriver à écrire des phrases et à faire apparaître une histoire, pour moi, ça a été la même ambiance de magie, cette chose, il n'y a rien, et puis on fait apparaître quelque chose en écrivant. Voilà, ça c'était une expérience merveilleuse pour moi.
Et une dernière chose, avant de se quitter, vous vous connaissiez avant le tournage, hein. J'ai vu, pareil, sur votre filmographie, Anna Sigalevitch, concert avec Régis Geoffrey.
Alors, c'était des projets, en fait.
Vous n'avez pas encore chanté ensemble?
Non, mais on s'était rencontrés au Marathon des mots en 2006, 2007, je ne sais plus, au moment de la sortie de Microfiction. Et Régis, en fait, disait ses textes avec des musiciens qui jouaient du rock. Et on s'était dit que ce serait super que moi, je joue au piano, que je chante et que Régis dise ses textes et chante aussi et qu'on organise des concerts. Voilà.
Vous voyez, ça sera des projets d'avenir.
Mais on cherche un tourneur, un organisateur de concerts.
En attendant, vous êtes en salle, vous êtes au cinéma, vous êtes tous les deux sur l'écran de Loup-garou, sorti aujourd'hui au cinéma dans toute la France. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par le studio de France Culture. Tout de suite à 13h22 sur France Culture, le live du jour programmé par Mathieu Conquet, c'est De l'amour, extrait de l'album Rouge. Comme la passion, le vin, le sang, la destruction et l'amour, explique son auteur Jérôme Suza, ancien bassiste de rock, fondateur de No One Is Innocent. Il est basculé, ou il a basculé dans la poésie et la chanson, parfois assez brut, sous le nom de Cheval Blanc au galop.
Connais-tu le secret perdu de l'amour? Connais-tu le mystère des nuits et des jours? Tes yeux et les miens, dans ton rire qui danse, à l'instant où tes mains glissent dans mes cheveux et dans mon âme en feu, font que nous sommes deux. Cette seconde bleue qui n'a plus d'existence, connais-tu le secret perdu de l'amour? Connais-tu le mystère des nuits et des jours? Perpendiculaire aux autres univers. l'amour est l'ami de la géométrie. Connais-tu le secret perdu de l'amour? Connais-tu le mystère des nuits et des jours? Connais-tu le secret perdu de l'amour? Connais-tu le mystère?
Extrait de l'album Rouge de Cheval Blanc sur France Culture. À suivre l'exposition Tatoueur tatoué avec ses commissaires Anne et Julien pour une approche géographique et artistique du tatouage. Mais avant d'entendre une histoire contemporaine du tatouage, coup de projecteur sur le sens à donner à cette pratique devenue tendance et même phénomène de masse avec vous Alexandre Lacroix, notre partenaire avec Philo Magazine de ce numéro de la Grande Table d'été. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous lui consacrez un dossier dans le numéro d'été de Philo Philosophie Magazine. Phénomène de masse, écrivez-vous, d'où vient ce goût pour l'irréversible? Pourquoi le tatouage, qui était avant conçu comme une, pour beaucoup comme une cicatrice, un stigmate, parle à sa manière aux peaux et aux gens? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter d'eux à travers lui?
Alors, en fait, d'abord, il faut prendre un peu la mesure du phénomène, c'est-à-dire que le tatouage est vraiment incroyablement répandu. Aujourd'hui, en France, en Europe, on s'en aperçoit quand on va à la plage, et c'est la saison pour le faire. C'est frappant chaque été, mais les chiffres qu'on a nous enseignent qu'à peu près 7 millions de Français sont tatoués, et cette proportion atteint 20% des 25-34 ans. Et comme c'est une mode qui est maintenant très courue chez les jeunes, on peut penser que cette proportion ne va avoir de cesse d'augmenter dans les 10 ans qui viennent, les 20 ans qui viennent. Donc voilà, le tatouage devient de plus en plus visible. Si vous avez regardé le mondial de football, vous avez vu que pour la première fois, l'équipe française, mais les autres équipes, c'est pareil, était composé majoritairement de joueurs tatoués.
Ah, c'est bête, moi je regardais le ballon, mais je ne savais pas qu'il fallait regarder les tatouages.
Mais si, c'est intéressant, c'est la première fois, c'est une rupture par rapport aux équipes précédentes. Et donc en fait, c'est vrai que la démarche du journal, de Philosophie Magazine par rapport à ça, c'était de se demander le pourquoi de cette affaire. Dans un premier temps, c'est vrai que je suis parti à la rencontre des tatoueurs et des tatoués avec une hypothèse qui s'est avérée fausse. Ma première hypothèse, c'était que les gens se tatouaient pour manifester leur singularité, leur différence par rapport au groupe. Donc finalement, dans une logique complètement inverse de celle qu'avait repérée l'anthropologue Pierre Clastre, quand il travaillait sur les Indiens et les rites initiatiques où il y avait des tatouages, je supposais au départ que nos contemporains se tatouaient pour s'arracher au groupe, pour marquer une excentricité, une différence, alors que le tatouage traditionnel, le tatouage tribal, marque une appartenance au groupe. Je me suis aperçu que ça, ce n'était pas la bonne clé de compréhension du tatouage, que les gens se tatouaient largement par imitation, qu'ils avaient l'impression de se tatouer aussi souvent pour être un peu comme tout le monde, et non pas d'être excentrique aujourd'hui. Et petit à petit, j'en suis venu à formuler une hypothèse un peu plus philosophique sur cette question et cette raison d'être du tatouage. Je pense que finalement, c'est un rapport au temps qui est là en jeu, et que à l'heure où tous nos engagements sont très volatiles, très précaires, en fait, nul ne peut dire ce qu'il en sera de son domicile, de son travail, de sa situation familiale ou sentimentale dans 5 ans. Enfin, le changement social va très vite. Donc, dans cette atmosphère de grande précarité sociale, J'ai l'impression qu'avec le tatouage, nos contemporains cherchent à créer de l'irréversible, à faire quelque chose pour toute la vie. C'est très difficile aujourd'hui de faire quelque chose pour toute la vie. Les mariages, en moyenne, à Paris, durent 4 ans, par exemple. Donc, c'est très difficile d'inscrire dans la durée un acte, un symbole, et le tatouage le permet.
Je vous emmène dans une balade au Quai d'Orsay avec Anne et Julien, les deux commissaires de l'exposition. Et on vous retrouvera après pour réagir justement à ce qui va être dit dans cette balade au Quai Branly. Voir aussi comment le tatouage, cette écriture dans la peau a pu évoluer. Ils voulaient tous les deux s'échapper d'un territoire anthropologique et ethnologique déjà bien arpenté pour présenter le tatouage à l'époque moderne, voire contemporaine, du début du 19e à aujourd'hui, mi-art, mi-stigma. Le tatouage est aujourd'hui présent dans les 5 continents. Pratique rituelle et universelle, elle a donc mérité sa place au Quai Branly, où le tatouage va s'exposer jusqu'à l'automne 2015. Tatoueur tatoué est une exposition conçue, bâtie par un couple de commissaires passionnés, par ailleurs fondateur de la revue Modern Art, Hey, Anne et Julien, qui nous guide à travers les salles du musée, les styles et les époques. En avançant dans l'exposition, on peut peut-être commencer par revenir aussi sur l'origine du mot tatouage. Hein, c'est un mot qu'on trouve pour la première fois dans un récit de voyage de James Cook. Tatouage, tatou, tato en polynésien qui signifie un dessin inscrit dans la peau.
Voilà, c'est ça, c'est une espèce de jeu sémantique. Grâce à Cook, le mot est arrivé en Angleterre, puisque le journal de Cook a été édité 3 fois de suite de façon différente, abrégé ou pas. Et en totalité, en fait, il a bien expliqué la sémantique du mot, qui est devenu dans le langage courant et anglo-saxon, tatou, et qui est arrivé chez nous en termes de tatouage. Voilà. Et le tatouage est, puisqu'on nous demande souvent, l'acte de réussir à infiltrer de l'encre sous l'épiderme de façon permanente.
Mais c'est déjà à cette époque-là, ce voyage de Cook, c'est la fin du 18e. Le tatouage est déjà une forme artistique pour certains, mais pour d'autres aussi une cicatrice, un stigmate. Il a d'ores et déjà plusieurs visages, plusieurs représentations et fonctions.
Il a autant de visages que d'explorateurs, d'aventuriers, de corsaires, l'ayant découvert tout autour du monde. Il y a, pour partir par exemple en Amérique du Nord, chez les natifs, donc chez les Amérindiens, il y a un explorateur européen qui a écrit, qui était totalement admiratif du tatouage Aïda, quand il les a découverts, et qui a décrit dans un livre tout ce qu'il a découvert. Ce livre est encore une référence absolue en termes de tatouage artistique et de traces Aïda. Il y a des écrits du 16e, du 17e et du 18e siècle qui sont totalement admiratifs, qui nous font rentrer dans un univers qui est et fantasmé et aussi de constatations. Donc les écrits sont tout à fait jouissifs en fait à lire. Et puis il y a des écrits beaucoup plus formels, quasiment militaires, et qui sont là vraiment pour uniquement documenter, renseigner les scientifistes occidentaux qui, eux, feront le chemin un an, deux ans, trois ans ou cinq ans plus tard.
Parallèlement à cette proposition artistique que peut représenter le tatouage, hein, qui s'expose sur les corps et aujourd'hui sur les murs du Quai Branly, le tatouage est aussi une marque de servitude, vous l'évoquiez, et dès l'Antiquité, il sert à marquer les esclaves. Hein. C'est une fonction que le tatouage gardera assez longtemps avec les prisonniers ou avec les prostituées. Et on a sur cette photo qu'on voit assez rapidement en arrivant dans l'exposition, on en a entre guillemets un bel exemple. C'est une femme arménienne qui a des tatouages dits d'identification. Quel était là le rôle du tatouage ?
C'est après le génocide arménien, en fait. Certaines femmes ont été capturées et ont été prostituées de force. Et ça permettait aux souteneurs, en fait, qui avaient ce cheptel de femmes, puisqu'il faut l'entendre vraiment comme ça, de les reconnaître, en fait, si elles s'enfuyaient. Donc ça, c'est une des dernières marques avec les camps nazis d'identification des gens, de servitude en tout cas. et c'est une photo très très impressionnante. C'est un moment qui a bouleversé toute l'Europe, ça, qui a fait la une des journaux, qui était très très importante. Ces marques de servitude qui étaient là. Mais on a des marques de servitude qui sont aussi des marques de reconnaissance. Hein, dans les armées de Jules César, les gens étaient tatoués avec leur numéro de bataillon, de légionnaire, etc. etc. Donc on s'est aussi servi en fait du tatouage, non seulement pour asservir les gens et communiquer une peine, par exemple, c'est-à-dire que de village en village, si on avait en Chine, au Japon, on marquait les gens au front, comme ça on savait de quoi ils étaient coupables, voilà, et ce pour toute leur vie. Puis vous avez une identification qui est liée à l'armée, qui est liée à un système judiciaire de façon très très importante.
Dans cette lignée, il y a ces tatouages des goulags russes, de ces prisonniers qui partaient en Sibérie. Et il y a ce livre, ce document qui est assez particulier. C'est un carnet de croquis et de dessins d'un ancien officier.
Merci de poser la question, parce que c'est une grande fierté d'avoir ce livre. On l'expose pour la première fois au monde. Il se trouve que, avec l'Empire soviétique, avec l'État soviétique, se sont développés les goulags. Et à l'intérieur de ces goulags, s'est développé un langage tout à fait particulier, très pointu, qui classifiait de façon, on va dire, alternative, tous les prisonniers. Donc évidemment, il y avait tous les dissidents, donc tous les gens qui étaient d'obédience politique. Il y avait aussi tous les dissidents qui étaient des prisonniers religieux. Et puis, il y avait toute la criminalité. Voilà. Et après, vous aviez tout le social. Et tous ces gens-là, en fait, passaient par le tatouage pour signaler, en fait, la façon dont ils se positionnaient en goulag. Ce livre est très particulier puisqu'il a été dessiné par un garçon qui s'appelle Danzig Baldaev. C'est un fils de dissident qui a été jeté à l'orphelinat et qui, de force, est devenu, à son jeune âge, alors qu'il avait entamé des études aux Beaux-Arts, il a été obligé en fait de devenir gardien de goulag. Et ce garçon en fait a dessiné ce qu'il avait sous les yeux puisqu'il avait besoin de dessiner. Et donc pendant 40 ans, il a renseigné de façon secrète et clandestine, il a renseigné tous les tatouages qu'il voyait autour de lui. D'abord il a dessiné les motifs, ensuite il a décrit la composition, c'est-à-dire où était placé le motif sur le corps, ensuite ce que voulait dire le motif, qui était le porteur, et où le porteur était enfermé et pourquoi. Donc on a une espèce de trace pleine de chair et de vie qui est très bavarde à travers un dessin qui est le dessin d'un très grand dessinateur.
Est-ce qu'on peut en décrire quelques-uns pour comprendre à la fois les tatouages qui étaient sur la peau de ces hommes, mais aussi ce qu'ils racontaient de cette époque ?
Ben là, c'est très simple. Vous avez une main, par exemple, là, qui apparaît avec sur chaque doigt, sur chaque phalange, en fait, une sorte de bague qui correspond à son existence politique. Vous avez un certain nombre de points qui correspondent à la façon dont il se comporte, en fait, dans le goulag. L'arrivée d'un petit diable comme ça, qui à la fois peut représenter un culte plutôt sataniste ou anti-religieux, et puis différentes marques, en fait, qui exprime son passage, soit dans d'autres goulags, soit une façon d'avoir un nombre de peines en fait cumulées. Tout ce qui correspond au rapport avec la hiérarchie du goulag ou les militaires ici.
Représenté en...
Ah, c'est des cochons, c'est des monstres.
Le cochon imaginaire.
En tout général, c'est des bêtes. Hein. Voilà, tout le parti communiste est représenté en cochon en général. Voilà.
Indirectement, on va jouer sur le contraste, mais c'est aussi vos choix de commissaire d'exposition, parce qu'après ce témoignage sur les goulags, on passe au sideshow qui représente ou raconte une toute autre histoire du tatouage, avec ces hommes ou ces femmes phénomènes de foire qui étaient tatoués quasiment sur l'ensemble du corps et qui se produisaient dans les cirques. C'était des tournées mobiles.
Au milieu du 19e siècle, il y avait deux types de tatoués. Il y avait uniquement les gens qui portaient le dessin sans en faire commerce. Et puis il y a eu, grâce au développement du cirque et des foires, et de Barnum en particulier, un développement en fait du métier de grand tatoué, voilà, où on s'exhibait, mais qui est déjà quelque chose qu'on a vu arriver à la fin du 18e siècle avec des Français comme Jean-Baptiste Cabri, O'Connell aux États-Unis, Rutherford en Angleterre. Sauf que là, ça devient vraiment une professionnalisation très très importante. Et donc le grand tatoué devient un des éléments de l'espace forain et des grandes tournées de cirque. Le tatoué est une bizarrerie parmi exactement les femmes à barbe, les siamois, etc. Mais il fait partie de cette confrérie, il fait partie de ce monde en fait. Et c'est dans ce monde-là qu'il va évoluer et que le tatouage, du fait d'être présent dans les foires, va aussi amener des tatoueurs qui vont accompagner en fait le déplacement des cirques et des tournées avec comme ce que vous avez derrière vous qui est un tattoo truck en fait qui est une valise de tatouage de voyage qui date des années 70 et de la fin en fait de l'itinérance des tatoueurs sur les foires et les spectacles et les cirques aux États-Unis.
On peut s'arrêter une minute aussi devant cette photo de Doineau qui avait réalisé toute une série à la fin des années 40, qu'il a publié ensuite dans un livre, hein, les tatouages du milieu. Il était allé dans les bas-fonds de Paris, dans le ventre vraiment de Paris, à la rencontre de ces hommes et de ces femmes tatouées, notamment beaucoup d'hommes du milieu.
Alors lui, c'est quelqu'un qui vient vraiment des bataillons d'Afrique, qui a été un peu l'école du tatouage français, et qui a passé un grand moment après la Première Guerre mondiale, en fait, à Alger. Et qui a commencé à se tatouer sur place. Et puis il s'est dit, c'est un ultra violent. Hein. Donc il s'est dit, à un moment, pour me sortir en fait, de cette misère, je vais me tatouer et on va se tatouer à deux. C'est-à-dire que plutôt que d'être tout seul sur scène, on va être deux. Donc il s'est tatoué avec son ami, il s'est tatoué l'un l'autre. Et puis l'ami est mort des suites aussi des tatouages parce qu'ils se sont empoisonnés le sang. Enfin bon, ils ont eu une histoire absolument horrible. Et lui, on retrouve ça, il disparaît à un long moment, et puis on retrouve sa trace donc au milieu des années 40 en France, où il se produit à Mouffetard. C'est-à-dire qu'il rentrait dans le café, il demandait une certaine somme d'argent, une fois qu'il avait cette somme d'argent, il enlevait ses sapes, puis il se mettait en slip et il montrait ses tatouages.
Et quand il était dans des bistrots, hein, faut bien le dire, pour faire ça, vous aviez un petit bonus si vous donniez une petite pièce en plus. Donc il se mettait vraiment nu, puisqu'il y avait là sur ses fesses et là où il ne fallait pas voir, où les vraies grandes scènes porno. Mais ça, c'était vraiment le gros truc du biribi, ce qui valait très cher.
Je ne sais pas si c'est cet homme, Richardo ou Ricardo, qui avait les plus beaux tatouages du monde. Il y a une série de tatouages dans cette exposition qui est absolument magnifique. Ça nous fait faire un saut géographique en allant du côté du Japon.
Donc vous arrivez au Japon, qui est un territoire maître, un territoire roi par rapport à cet art-là. Vous avez une très belle photo de Irina Ionesco, qu'on a découvert, qu'on ne connaissait pas en fait avant de faire l'exposition, et qui montre des yakuza au bain, donc le bain chez les Japonais. Évidemment, quand vous êtes tatoué au Japon, il est très compliqué de partager les espaces publics à partir du moment où vous montrez votre peau, puisque le tatouage a été très mal vécu par la société bien-pensante japonaise.
Parce qu'en fait, au Japon, vous ne pouvez pas aller dans des bains publics en étant tatoué de cette façon-là. L'entrée est encore interdite, en fait. Donc, il y a des bains publics réservés aux tatoués. Et ça, c'est encore en vigueur.
La démonstration de force, en termes dans le tatouage japonais, ne se situe pas dans les compositions et dans le motif. L'idée de la bravoure et de l'acte de courage, du témoignage, de la preuve de courage, est plutôt dans la façon dont le porteur, donc le receveur, va endurer le tatouage. Voilà, tout se situe dans la séance de tatouage. À cette époque-là, 20e siècle, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, vous alliez vous faire tatouer jusque vous faire couvrir entièrement quand vous étiez yakuza pour faire preuve d'allégeance au gang, à la famille. Vous alliez vous faire tatouer une fois par semaine. Quand vous savez que le corps enregistre, a une mémoire très très forte de la douleur, il enregistre tout quand vous avez mal. Quand vous y revenez une fois par semaine pendant 3 mois, pendant 6 mois, quand il vous faut vous faire un irezumi intégral, vous comprenez la valeur de ce geste-là. Toujours dans la section Japon, vous avez ce qui nous paraissait extrêmement important en fait de raconter. C'est une photo d'une peau humaine qui a été prélevée, donc découpée, prélevée, post-mortem, hein, et qui devient objet de collection. Le Japon, de ce point de vue-là, a une histoire totalement particulière. Cette collection, qui possède maintenant plus d'une centaine de peaux, est considérée trésor national. Elle est due au docteur Fukushi, qui était un dermatologue qui observait la conséquence que pouvait avoir, d'un point de vue sanitaire, le fait d'être tatoué sur des grains de beauté, par exemple. Voilà. Il a étudié ça toute sa vie. Évidemment, il était plus en confrontation avec ce qu'on appelle le petit peuple, donc des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui avaient vraiment besoin de se faire soigner et qui devenaient objet de recherche aussi. Et il ne connaissait pas du tout le tatouage. Il est rentré en contact avec ce monde-là. Il a tout d'un coup ressenti, au fur et à mesure des années, beaucoup d'empathie. De l'empathie, il en est arrivé à une admiration très très solide, et il s'est aperçu, il est rentré dans la réalité des gens qui avaient besoin en fait de se faire tatouer pour exister socialement, sachant qu'ils avaient un tout petit métier, qu'ils ne gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent. Et donc il est arrivé à financer lui-même, du vivant du porteur, les pièces que les gens allaient se faire, pour pouvoir après se les faire offrir post-mortem. C'était un, on va dire, une espèce de contrat moral tout à fait partagé entre le porteur et le receveur, qui est totalement différent de l'idée que vous pouvez avoir. Vous avez d'autres peaux hein, ici dans l'exposition qui sont objets de trafic. Claire et nette, occidentale. C'est une collection extraordinaire et unique au monde, bien sûr. Nous n'en avons pas une ici au musée du Quai Branly, puisqu'on ne peut pas les sortir du Japon.
La collection de ce dermatologue mécène permet peut-être d'ouvrir sur un point qu'on a peu abordé, c'est l'importance des évolutions des techniques de tatouage.
Là, du Japon, vous allez directement aux États-Unis, justement, c'est ce dont on parle, des évolutions de technique, puisque c'est aux États-Unis qu'a été inventée la machine à tatouer électrique à la fin du 19e siècle. Le tatouage a totalement changé, parce que tout d'un coup, il était beaucoup plus facile de tatouer, ça allait beaucoup plus vite, ça faisait beaucoup moins mal, et il y avait quand même des facilités à cicatriser, c'était plus facile.
Ce crayon électrique qui a le son du bistouri du dentiste, un peu, non ?
C'est ça. C'est la musique du tatouage.
Sur cette relation tatoueur-tatoué, sur cette part d'intime du tatouage, cet entre-soi aussi, est-ce que ça a gardé cette part-là de personnalisation et d'intimité ?
Oui, pour comprendre le tatouage, pour continuer de le comprendre, il faut rentrer dans la réalité de l'importance de la relation, donc de l'intimité, entre le tatoueur et le tatoué. Voilà, aujourd'hui, vous avez une explosion du tatouage, c'est clair. Donc, vous avez beaucoup de gens qui arrivent dans le tatouage par la mauvaise porte ou qui n'ont rien à faire dans le tatouage. Le tatouage est une histoire de vocation. Aujourd'hui, on va acheter un tatouage ou on va se faire tatouer. C'est très, très différent. Vous poussez la porte d'un studio, vous achetez n'importe quel motif et vous repartez. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dans la réalité du tatouage et que vous rentrez dans la communauté. Vous allez vous faire tatouer, vous cherchez le tatoueur, vous cherchez ce que vous voulez, qui est le meilleur dans votre pays ou dans un autre pays. Ça vient d'où ce style-là ? Et là, vous rentrez dans une réalité qui fait que vous soyez tatoué de façon visible ou invisible, vous le portez de façon très différente. Là, aujourd'hui, dans la rue, vous voyez quelquefois des jeunes de 25 ans qui sont tatoués jusque sur le menton. Franchement, c'est une pitié, quoi. Le tatouage était vraiment magnifique parce que vous portiez votre vie sur le corps. C'était une espèce de signifiance absolue, une espèce de chose, c'est un choix jusqu'au cou. si j'ose dire, et quelque chose de bruyant, de bavard, qui avait beaucoup d'odeur, voilà. Donc s'il vous plaît, avant d'aller vous faire tatouer, intéressez-vous à ce que vous allez faire.
On termine cette visite avec vous, Julien, dans cette exposition Tatoueur Tatoué, sur un tatouage qui sent bon pour vous, puisque tout à l'heure Anne évoquait l'odeur des tatouages, un parfum de tatouage, alors ce serait lequel ?
En face de nous, il y a un bras de Xed Lehet qui est entièrement pris jusqu'au bas des phalanges, en deux couleurs, en noir et rouge. Là, pour moi, cette odeur-là, c'est vraiment l'odeur de la modernité. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'extrême de ce qui s'est fait dans les rencontres, en fait, à la fois dans la composition dite traditionnelle et le fait de reprendre deux ou trois couleurs, c'est-à-dire un minimum de couleurs, comme on pouvait l'imaginer il y a encore 150 ans. C'est une représentation sur la paix, en fait, et la paix qui circule à l'intérieur du corps par rapport à des vieux symboles indiens. Xed fait partie de ces gens, en fait, qui sont d'une génération. Il est anglais, il travaille avec Alex Bini dans un atelier qui a vraiment fait évoluer le tatouage à partir des années 80 là-bas, où, en même temps qu'ils avaient un regard très, très prégnant, en fait, sur ce qui s'était fait auparavant, ils étaient dans une dimension complètement d'avancée culturelle, artistique et de relation avec le client. C'est-à-dire qu'ils ont remis aussi vraiment à l'intérieur de leur travail la façon dont les gens venaient les voir. Et ils ont une proposition qui est uniquement une proposition de création. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas chez eux en disant « je veux ça dans votre catalogue, monsieur, ça n'existe pas chez eux ». C'est-à-dire que c'est la rencontre avec quelqu'un qui fait qu'on va avoir telle ou telle envie de dessin, de partager à un moment. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi dans l'option de refuser de faire des choses. Et donc ça, c'est vraiment une dimension du tatouage qui fait qu'on rentre dans une intimité très très forte. Le fait d'assumer un bras comme ça en entier, c'est vraiment une décision plus qu'à vie, en fait, parce que ça va déterminer vraiment la façon dont on vit au jour le jour. Et puis on est dans cette idée, en fait, de complètement prendre le corps, quoi. Nous, on peut l'imaginer, la façon dont il va pousser, dont il va bouger, dont on peut pousser un meuble, tirer un objet, tirer un tiroir, faire que tout le bras en entier va avoir une circulation. Le tatouage va vivre, en fait, cette circulation. Et moi, pour moi, c'est ça, les tatouages vraiment vivants. C'est très fort. Donc la mission de cette exposition aussi, c'est justement de remettre au premier plan, en fait, l'aventure humaine du tatouage. C'est-à-dire les tatoués, les tatoueurs et ce qui s'y fabrique. Et puis, il y a un plaisir aussi non dissimulé pour nous de mettre en avant un savoir qui n'était pas écrit. Voilà.
L'exposition Tatoueur Tatoué à voir au Quai Branly à Paris jusqu'à la mi-octobre 2015. Vous avez donc un peu de temps, mais n'oubliez pas de vous y rendre. Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, vous avez entendu, écouté ce que nous ont dit Anne et Julien sur le tatouage. Quelque chose de bruyant, de bavard, dit Anne. Qu'est-ce que les personnes que vous avez rencontrées veulent raconter ? Qu'est-ce qu'elles veulent raconter d'elles à travers les tatouages qu'elles choisissent ?
Bah, effectivement, après cette enquête où j'ai rencontré pas mal de gens qui s'étaient fait tatouer, il me semble qu'on peut faire un lien entre les tatouages qu'on porte sur le corps et le mur qu'on a sur Facebook. Vous voyez la page Facebook sur laquelle on affiche à la fois les photographies des proches, quelques préférences artistiques ou culturelles, quelques citations fortes. Et bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les gens écrivent une autobiographie ou une autobio-iconographie sur leur corps et les choix des tatouages sont moins déterminés par de la connaissance artistique ou de la connaissance historique du tatouage, c'est ce qui a été dit dans le reportage, que par cette volonté de composer, d'assembler quelque chose qui vous ressemble et qui est forcément un peu hétéroclite. Donc il y a certains tatouages qui sont des souvenirs de relations amoureuses, certains tatouages qui, comme le prénom des enfants, qui établissent des liens familiaux, qui rappellent des origines quand les origines sont lointaines, qui sont des citations de films, et voilà. Et donc la page Facebook, le corps, c'est pareil.
Et ça nous ramène au sujet, au titre de une de Philosophie Magazine pour cet été 2014, tu veux ou tu veux pas. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. On part tout de suite à 13h presque 53 à rejoindre Joël Gaillot à Avignon. Joël Gaillot qui nous présente aujourd'hui encore un spectacle de son choix. Ce midi, rendez-vous Gare de l'Est, Joël, et c'est off.
C'est du off, Olivia. On va suivre les pas d'un habitué du festival. Il l'a pratiqué en tous sens, dans la rue, dans le off, dans le in. Effectivement, il y est venu enfant puis adolescent. Guillaume Vincent est un mordu d'Avignon et cette année, il signe à la condition des soies une représentation en forme de monologue, un texte mi-fictif, mi-documentaire qui porte sur une femme maniaco-dépressive que Guillaume Vincent a interviewée à Paris. Cette pièce a d'ailleurs fait l'objet d'une réalisation par Alexandre Planck sur France Culture. Vous allez en entendre des extraits, mais reprenons par le début, Olivia. Avignon, donc, que le petit Guillaume venait visiter en voisin.
Mes parents habitaient pas très loin d'Avignon, à Uzès. Donc moi, j'ai été 2 années stagiaire dans des théâtres du off où je passais la serpillière entre les spectacles, où je changeais un peu les lumières, je déchirais les billets, etc., etc. Donc c'est vraiment un festival de ce côté-là que je connais bien et que je connaissais petit parce que j'allais dans la cour d'honneur avec mes parents découvrir des pièces. Et puis après, adolescent, quand je découvrais un auteur, j'allais dans le off pour voir les pièces de cet auteur. Alors, quand c'est Tennessee Williams, autant dire qu'on voit pas souvent des merveilles à Avignon dans le off. Et après, juste avant de rentrer à l'école du TNS à Strasbourg, j'ai joué 2 années de suite dans la rue.
Donc, un spectacle de rue, donc ?
Un spectacle de rue, voilà, qui parlait du Festival de l'Avignon, justement, du in, du off, des clowns et des... Voilà, enfin, c'était un spectacle un peu assez joyeux, on va dire, assez foutraque. Et ensuite, j'ai joué dans le off à la caserne des pompiers, c'était le bouc de Fassbinder. Ensuite, j'ai été programmé dans le in, donc avec La Nuit tombe. Et ensuite, j'étais en collaboration artistique sur les projets SACD avec Nicolas Maury et... Là, je fais le off, encore une fois, avec Rendez-vous Gare de l'Est.
Nous, on s'est vraiment habitués à ce mode de vie. Hein. On est vraiment... On n'a pas de soucis, quoi. On n'a vraiment aucun souci d'organisation. Ce qui est un peu désagréable, c'est que quoi, bon, si moi, je dors, par exemple, Fabien peut regarder la télé, ça ne me dérange pas. Hein. Fabien, par contre, il ne peut pas. Hein. Si je lis, il ne peut pas dormir, il n'y arrive pas. Donc, on est obligé d'éteindre la lumière. La nuit, je lui prends la tête. Parce qu'il a tendance à être... c'est un nom... Je ne l'ai pas retenu, j'ai rien à faire, non, je ne peux pas le savoir en fait, mais tu sais, les gens qui serrent très fort leur mâchoire et Fabien, il a, enfin, il grince un peu des dents, enfin, tout petit peu légèrement. Et en fait, j'ai remarqué que quand je le prends comme ça et que je lui fais des bisous, ça le calme.
Est-ce que vous pensez qu'on peut faire son éducation théâtrale en venant ici à Avignon, Guillaume Vincent ? Est-ce que vous l'avez faite en partie, votre éducation de spectateur ici à Avignon ?
Ah, moi, je l'ai clairement faite à Avignon, ça c'est sûr. Parce que venant, ensuite, j'ai été étudiant à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait des gens qui n'étaient jamais passés ni à Aix ni à Avignon, comme Régis, Langauf. Donc oui, moi, mon regard de spectateur, il s'est fait clairement à Avignon. Moi, je suis vraiment un enfant d'Avignon, et en plus de la décentralisation, parce que j'y venais pas en parisien, j'y venais en voisin.
Voilà. Il y a des gens qui peuvent être broyés par le Festival d'Avignon, des artistes qui viennent ici et qui peuvent être... littéralement écrasé si le spectacle ne marche pas par justement l'échec. Vous, ça n'a pas été le cas parce que La Nuit tombe avait rencontré un franc succès au Pénitent Blanc. Mais c'est quelque chose qui peut faire peur à un artiste quand il vient dans le in pour la première fois. La pression, le public énorme, la presse qui est beaucoup sur votre dos.
Bah, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses d'un coup, effectivement. La presse, les professionnels. Et puis, il y a une chose un peu cruelle dans le festival, c'est-à-dire c'est l'hystérie, c'est-à-dire... on court d'un spectacle à l'autre, on sait avant même que le spectacle ait eu lieu si ça va être bien ou pas. Donc il y a des choses qui sont assez cruelles et violentes. Et il y a beaucoup de spectacles à Avignon qui mettent 2, 3, 4 représentations à trouver leur souffle. Et malheureusement, au bout de 3, 4 représentations, on a déjà mis une étiquette sur le spectacle, et la presse a déjà sorti les papiers. Donc ça peut être un peu un jeu de massacre, quoi.
Est-ce que le public d'Avignon est un public que vous sentez totalement différent du public que vous pouvez trouver au Bouffe du Nord, à la Cité Internationale, qui sont des salles où vous avez joué ?
Malheureusement, c'est quand même un public qui est souvent composé à un quart ou un tiers de professionnels. Mais sinon, les deux autres tiers, par exemple, quand j'étais dans le UIN, on avait fait des rencontres avant avec le public et on sent vraiment des spectateurs passionnés de théâtre, qui ont vu des choses, qui ont une culture et qui ont une passion qui est pas du tout, qui est une passion entière, totale, naïve, excessive. Et ces spectateurs-là, c'est assez réjouissant de les croiser, de pouvoir leur parler ensuite. Et là, que ce soit dans le UIN ou le OFF, c'est quand même un peu la même chose, quoi. Même si c'est pas exactement le même profil de spectateur, c'est en tout cas c'est des spectateurs passionnés, ça c'est évident.
Mais qu'est-ce qui fait le succès d'un spectacle dans le off ? Parce que quand vous aviez monté le book de Fassbinder à la caserne des pompiers, il y a quelques années,
4 ans, oui.
Je ne sais pas si c'était allé aussi vite, l'arrivée du public dans la salle, mais j'imagine qu'entre le book et aujourd'hui Rendez-vous Gare de l'Est, vous-même ayant une notoriété ou une visibilité plus grande, ça a été plus simple de faire venir les gens.
Alors, ça a été plus simple, ça c'est sûr, parce que... Il y a eu des gens de presse qui sont venus, qui me connaissaient déjà, ou des gens de radio. Mais ensuite, je n'ai pas l'impression que les gens se soient déplacés. En tout cas, la majorité du public se déplace pour le nom ou pour quelque chose comme ça. Après, c'est un spectacle qui est très étrange parce qu'il amène du public par sa force, mais aussi par son sujet, en fait. C'est un monologue d'une femme qui est maniaco-dépressive ou bipolaire. Enfin, en tout cas, ça traite de la... l'enfermement, mais aussi de la dépression et des choses comme ça. Et donc, il y a un terreau dont je ne soupçonnais pas avant, mais des psychiatres. On a eu des psychiatres lacaniens qui voulaient nous acheter une représentation pour l'issue d'un congrès, par exemple. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez imprévisibles et que j'aime plutôt bien.
Et donc, Fabien, si jamais c'est pour me retrouver à l'hôpital, il ne veut pas. Hein. Parce qu'il sait que si j'arrête mes médicaments, j'ai 90% de chances d'aller à l'hôpital, hein, presque 100, et ça, il ne veut plus. Hein. Parce que je crois qu'il a beaucoup souffert avec la... l'épisode de Sainte-Anne.
Avant dernier rendez-vous avec Joël Gaillot à Avignon, c'était donc Rendez-vous Gare de l'Est à voir dans le off à 14h25 à La Condition des Soies. Toutes les infos à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission La Grande Table d'été, où vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table et notamment à Daphné Abgral et Adrien Nazelli qui ont préparé aujourd'hui cette émission. Très bel après-midi à tous.